Et une nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons ce matin de l'agenda social du nouveau gouvernement pour l'année à venir. Il a été présenté la semaine dernière par le président lui-même alors qu'il recevait un à un les syndicats de salariés et du patronat à l'Élysée. Dans l'ordre, réforme du marché du travail, c'est pour tout de suite, puis de l'assurance chômage et de la formation, puis des retraites. Pour la méthode, priorité donc à la modernisation de la négociation au sein de l'entreprise et avec les pouvoirs publics, c'est ceci dans la loi travail. L'intention paraît claire, les choses doivent désormais se passer autrement et Emmanuel Macron estime qu'il a pris le temps d'expliquer sa vision pendant la campagne, ce qui justifie à ses yeux le recours aux ordonnances. Alors au-delà du contenu des mesures envisagées, sur lesquelles bien sûr nous allons revenir, que nous disent ces tout premiers jours des futurs échanges avec les partenaires sociaux et des conditions de leur réussite, du dialogue aux premières réformes, la politique sociale va-t-elle changer? C'est notre sujet aujourd'hui. Et nous sommes en compagnie d'Alexandra Roulet, économiste, membre du Cercle des économistes et professeur à présent à l'INSEAD. De plus membre du Cercle des économistes, si, je dis une bêtise.
Non, j'ai jamais été, mais je...
Pardon.
Ami des Cercles des économistes.
Ah, voilà. D'accord, que l'on voit à Aix l'été. Pardon Alexandra. Professeur à l'INSEAD, ça c'est bien vrai. Pierre-Yves Joffard, directeur de PSE, École d'économie de Paris. Jean-Marie Pernaud, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, c'est l'IRES. Et puis en fin d'émission, puisqu'on vous a demandé à chacun de venir avec un chiffre, on commencera avec celui de Catherine André, notre partenaire avec Alternative économique journaliste dans ce journal. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Le président de la République donc s'est entretenu la semaine dernière avec les partenaires sociaux, nous le disions, sans surprise. À leur sortie, les syndicats de salariés demandent plus de temps pour la concertation. Le patronat, lui, s'est reprononcé à nouveau pour des mesures rapides et fortes. Rupture sans doute, Emmanuel Macron impose ses priorités et son tempo, semble-t-il. Et si l'on se souvient de ce qu'avait fait François Hollande dans la semaine qui a suivi, même les jours qui ont suivi son arrivée à la présidence de la République, il avait reçu les organisations pour leur demander leurs priorités. C'est déjà un premier signe. Le président en tout cas se dit convaincu que pour terminer son mandat avec un taux de chômage qu'il espère à 7%, il faut démarrer vite sur cela. Un enjeu d'équilibre donc il va falloir respecter puisqu'il promet à la fois de libérer et de protéger. Première, peut-être tour de table sur ses intentions du nouveau gouvernement en France, avec ces deux modèles, pour aller très vite, le modèle scandinave qui serait celui de la flexibilité avec un volet sécurité et le modèle plus radical anglo-saxon qui mise tous sur le premier, équilibre fragile. Je commence avec Jean-Marie Pernaud qui va nous parler assez largement de l'attitude des syndicats dans cette affaire.
Bonjour. Alors, parce que ce sera rupture-continuité, il y aura sûrement des éléments nouveaux, ne serait-ce que de style d'ailleurs. On voit un président fraîchement élu, bien décidé, qui semble avoir sa feuille de route, qui en passe malgré tout par les rituels, ceux de la consultation, de recevoir les syndicats, etc., qui sont inscrits maintenant dans les bons usages de tout président fraîchement élu. Après, il y a sûrement des périodes. La période Hollande a été aussi traversée de moments différents. Au début, il y avait une sorte de consécration des partenaires sociaux, on voulait constitutionnaliser le dialogue social, il y avait les grandes conférences sociales, etc. Et puis sur la fin, ça se passait un peu autrement, on a arrêté avec ça. Depuis en gros l'annonce du pacte de responsabilité et l'arrivée de Manuel Valls, il y a eu un petit peu un changement de style, le recours au 49-3, etc. Je passe, donc aujourd'hui l'ardoise est effacée, on redémarre à zéro avec un président qui a l'air de savoir ce qu'il veut. Après, il faut quand même sacrifier à ses rituels. Il y a même une loi, la loi de 2007, qui fait obligation de, etc., sous réserve d'urgence. Donc je pense que tout ce qui est monté autour de l'urgence vise à contourner un peu les obligations de la loi de 2007, parce que celle-ci suggérerait une étape de négociation, suggérerait la consultation de la Commission nationale des conventions collectives, etc. Donc un arsenal de consultations dont visiblement le nouveau pouvoir veut faire l'économie, donc il va très vite. Après, sur le fond, qu'est-ce que ça peut produire? Je crains quand même que des mesures mesures faites sans aucun bilan d'ailleurs des mesures précédentes, parce que c'est quand même ça qui est frappant depuis des années. On enchaîne ces réformes du marché du travail sans s'interroger sur leur pertinence et leurs effets. Or, même la Banque Centrale Européenne aujourd'hui s'interroge sur l'effet de ces réformes de marché du travail. Est-ce qu'on n'est pas en train d'agiter le énième leurre sur les problèmes de l'économie française et de l'emploi? Est-ce que le code du travail est une façon de régler les problèmes d'emploi, etc.? Je pense qu'on fait l'économie quand même de beaucoup de débats de fond à travers cette attitude.
Un point que vous avez tous très souvent soulevé dans cette émission, mais sûrement ailleurs, on ne capitalise pas assez et surtout on n'expertise pas, on ne fait pas assez d'expertise sur les mesures déjà adoptées. On n'y revient pas suffisamment. Je crois que c'est un défaut bien français, peut-être pas que français, mais en tout cas...
Je pense que dans l'esprit, il y a quand même une volonté de changer un peu le paradigme de la politique sociale. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a deux modèles, le modèle scandinave, le modèle anglo-saxon. Il y a aussi deux logiques qu'on oppose souvent, la logique bismarckienne d'assurance, où on s'ouvre le droit, par exemple, au chômage en cotisant, et la logique beveridgienne, où il y a une universalité des prestations. Et donc là, il semblerait que le gouvernement veuille passer d'une logique plus bismarckienne à une logique plus beveridgienne, pas que sur le travail, aussi sur d'autres aspects, le congé maternité, etc. Les retraites et tout, l'idée... Et toujours un peu la même pour tous les thèmes, c'est quand même d'uniformiser les systèmes pour plus de lisibilité, plus de simplicité et d'équité. Donc ça me paraît être un bon, tout à fait une bonne démarche. Après, il y a la question que soulevait Jean-Marie Pernaut à l'instant de l'objectif en fait de ces réformes, notamment sur le marché du travail. Ça pose quand même la question de l'objectif. Est-ce qu'il s'agit simplement de faire baisser le taux de chômage ou est-ce qu'il s'agit véritablement d'intégrer mieux dans l'emploi les populations concernées? Parce qu'on peut faire baisser le taux de chômage, en effet, à coup de flexibilisation, d'assurance chômage réduite, mais on ne sait pas exactement dans quel genre d'emploi ces personnes se retrouveront. Et ça, c'est quand même le gros enjeu, notamment sur l'assurance chômage, quand on veut forcer les gens à accepter les offres d'emploi, d'être sûr qu'elles ont été formées, que ces personnes ont été formées pour accepter des offres qui puissent correspondre à leurs compétences ou qui puissent être des emplois durables dans lesquels ils restent un certain temps. Je pense que la vraie question, c'est celle de l'objectif, pas seulement faire baisser le taux de chômage à tout prix, mais aussi véritablement améliorer le marché du travail, la situation des travailleurs sur le marché du travail.
Alors, question peut-être plus directe, on a vu dans l'ordre modernisation du dialogue social avec la loi travail, réforme de l'assurance chômage, les retraites un peu plus tard, on y reviendra sans doute nous. Mais a-t-il raison de commencer par cette loi travail? Vous disiez, Jean-Marie Pernaut, quand même, on reste sur une situation très, très tendue. On se souvient des grandes difficultés du dialogue au moment du passage de cette loi El Khomri qui a été votée, bien sûr, je le rappelle.
Oui, la difficulté, c'est effectivement de changer de système. C'est-à-dire que on n'est pas en train de parler de petits changements. On est en train de changer changer vraiment de paradigme. C'est-à-dire que on est dans un système de protection sociale qui est construit autour de la protection du travailleur et par ricochet des ayants droit, cette protection sociale qui irrigue l'ensemble de la population. Mais ça, c'était un système qui fonctionnait à peu près quand on avait un plein emploi masculin, à peu près garanti, des couples également, des familles qui étaient relativement stables. On n'est plus du tout dans ce modèle-là. Donc le basculement du paradigme de protéger les travailleurs à protéger les individus, à protéger les citoyens, à protéger toutes les personnes qui vivent sur le territoire, ça c'est un changement très très radical puisqu'on s'intéresse à la personne et c'est plus à travers le travail qu'on va acquérir des droits et être protégé. C'est vrai de l'assurance maladie aussi, où là il y a et on voit qu'il y a les réformes récentes ont pas du tout été dans le sens de l'histoire, puisqu'en favorisant les protections sociales complémentaires, l'acquisition des complémentaires à travers les contrats collectifs d'entreprise, on va plutôt dans l'autre sens. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On sait pas encore très bien, mais on risque de voir quand même un mouvement dans l'autre sens. Et c'est vrai aussi de l'assurance chômage quand le candidat Emmanuel Macron a parlé de nationaliser l'assurance chômage, ça veut dire retirer d'une certaine manière aux partenaires sociaux la gestion de cette protection contre ce risque-là, en reconnaissant que c'est un risque contre lequel tous les individus et pas seulement les travailleurs doivent être couverts. Donc c'est vraiment un bouleversement assez complet. Alors par quoi il faut commencer quand on réforme un système? Ça c'est toujours très délicat. En fait, il faut commencer partout en même temps.
Mais le problème est là. Est-ce qu'on est effectivement dans la proposition d'entamer très directement cette question du travail? Est-ce que vous entendez suffisamment les uns et les autres la question de la sécurisation des parcours de la formation? Il semble pour l'instant qu'on parle davantage du côté de la première jambe, on va dire.
pense
libérer,
quand même
peut-être plus que protéger dans un premier temps.
Je pense quand même que le gouvernement a en tête Alexandre deux jambes, notamment parce qu'il veut quand même étendre la protection que peut constituer l'assurance chômage à d'autres catégories. D'ailleurs, en soi, on peut se demander si on devrait garder le nom d'assurance chômage, parce que quand on veut vraiment assurer les transitions entre deux emplois, y compris pour des indépendants ou pour des personnes qui démissionnent, finalement, c'est des personnes qui vont travailler pendant qu'elles vont toucher l'assurance chômage, parce qu'elles sont, ou en tout cas se former, ou elles sont en reconversion, elles sont en période de transition. Donc, c'est pas forcément l'assurance chômage telle qu'on l'a pensée avant. Et peut-être même qu'un changement de nom, puisqu'on est dans un changement de paradigme total, pourrait être, à mon avis, opportun.
Plus clair.
Et après, plus clair. Et après, c'est sûr que donc c'est à mon avis, en effet, ce que disait Pierre-Yves Geoffard, tout à fait vrai. Il faut lancer tout en même temps, parce que comme c'est des chantiers dont les effets vont déjà mettre du temps à être adoptés, mis en place, et dont les effets vont mettre encore plus de temps à se voir en quelque sorte, c'est-à-dire à se voir dans les indicateurs, etc. Ça me semble important de lancer tous les chantiers assez rapidement, en tout cas.
Et tout ceci dans un contexte, évidemment, qui interpelle très, très directement les syndicats. On a été frappés les uns et les autres, je crois que ça a été beaucoup observé par les experts, des réactions des syndicats à la sortie de ces premiers entretiens avec le président Macron. Je pense surtout à Force Ouvrière, Jean-Claude Maillet, mais Jean-Marie Pernaud, vous avez longuement étudié ces relations complexes entre CGT, CFDT, FO, pour parler des plus importants, mais on peut parler également aussi de la CFTC et des autres. Emmanuel Macron assure que tout n'est pas verrouillé, tout ne sera pas plié dès le mois de juin. En revanche, les Français font savoir qu'ils aimeraient bien qu'on tienne compte des arguments des syndicats. Et les syndicats eux-mêmes ont le souci de ne pas apparaître trop proche du pouvoir, au moins pour certains d'entre eux. Jean-Marie Pernaud.
Pour certains d'entre eux, il n'y a pas trop de risques qu'on les pense proches du pouvoir. Pour d'autres, en revanche, y compris d'ailleurs les positions prises pendant la campagne électorale, pouvaient induire un certain nombre d'ambiguïtés.
Je pense surtout à la CFDT qu'on a accusé de le faire.
Bien sûr, voilà. Hein, et en plus, vous avez évoqué immédiatement la dynamique de la loi El Khomri, des conflits qu'il y a eu autour, où la CFDT était du côté de la production de la loi, auquel elle avait effectivement d'ailleurs largement prêté la plume. Donc aujourd'hui, est-ce qu'elle se trouve dans une situation un peu différente? Elle a dit ses priorités. On verra si Macron... Bon, parce qu'on voit à peu près le scénario. Je crois que Philippe Aguillon l'avait assez bien dit en disant il faut trouver un truc qui soit CFDT compatible. Voilà, hein. En gros, on va essayer de bricoler cet été, là, dans les trois semaines qui viennent, quelque chose qui soit CFDT compatible. Ça sera peut-être pas si facile que ça, parce que là, dans le paquet qui est annoncé, il y a à peu près tout ce sur quoi la CFDT avait dit, bah non, s'il y a ça, on n'ira pas. Mais avec la CFDT, on ne sait jamais. Peut-être que là... s'il cède sur une ou deux questions, s'il renvoie au volet formation auquel cette centrale est très attachée, peut-être qu'ils pourront obtenir son soutien. Ce qui est frappant, bon, mais c'est une récurrence de notre mouvement syndical, c'est le fort peu de contact entre eux. On voit chaque centrale essayer de jouer sa propre partition. Bon, la CFDT, on vient d'en parler. Force Ouvrière, effectivement, semble avoir souffert d'être tout à fait à l'extérieur, hein, pendant la procédure El Khomri, je l'appelle comme ça pour faire vite, mais c'est en antérieur à ça d'ailleurs, hein, cette espèce de marginalisation progressive, paradoxale, puisque FO est traditionnellement proche du Parti Socialiste, donc là, la période dont on sort était assez paradoxale pour elle. Bon,
et influente dans la fonction publique, je le précise aussi.
Oui, tout à fait.
C'est très important
pour Force Ouvrière en plus, qui était annoncée comme sur le déclin il y a une dizaine d'années, c'est pas le cas, elle consolide. Donc c'est un acteur qui va compter, d'autant qu'elle a placé l'un des siens, c'est sûrement plus compliqué que ça, mais enfin, elle a aujourd'hui au cabinet de la ministre du Travail, un ancien négociateur de Force Ouvrière qui n'était pas un personnage anodin dans le panorama de la direction de Force Ouvrière. Donc tout ça, effectivement, remolole, on ne sait pas trop. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on n'ait pas eu de rencontre, ni officielle, ni autant que j'en sache d'ailleurs officieuse, entre les leaders syndicaux. Bon, les premiers, les numéros un, comme on dit, se téléphonent, mais enfin, c'est vraiment de l'ordre de la politesse. C'est quand même assez singulier que quand on mesure l'ampleur des changements, le changement de paradigme qui a été évoqué là, effectivement la lourdeur des enjeux, le fait qu'on a un président qui ne prendra pas il fera ce qu'il faut pour ne pas choquer sur la forme sans doute, mais enfin on voit bien qu'il il a un chemin tracé et que face à ça, les syndicats sont à dire ah ben oui, Madame Pénicaud, pourquoi pas, etc. Enfin, comme ils avaient accueilli d'ailleurs Madame El Khomri.
Plutôt favorablement.
Oui, plutôt favorablement, bah, parce que c'est quelqu'un qui connaît ces sujets. C'est toujours mieux que d'avoir d'autres ministres, y compris du travail, qui étaient là parce que on avait voulu les caser. C'est arrivé. Donc,
on peut quand même rappeler Jean-Marie Pernaud, parce que c'est une particularité quand même assez française. Hein, au 10e rang d'ailleurs dans les pays de l'OCDE, la représentativité des syndicats, enfin l'affaiblissement d'ailleurs, hein, qui est assez constant. Des syndicats, 6-8%, quel est le chiffre exact aujourd'hui?
Non, écoutez, l'INSEE l'an dernier, enfin l'INSEE, pardon, la DARES a produit l'an dernier une nouvelle étude à partir d'enquête INSEE qui a révisé un peu le taux de syndicalisation qu'on croyait
très faible,
immémorialement scotché à 7-8%, puisqu'aujourd'hui le chiffre qui est retenu, et c'est le croisement de deux enquêtes assez différentes, donc il a une certaine pertinence, c'est 11,2% qui est donné, 11,2% hein, d'après la publication
privé,
de la DARES.
Oui.
Non, privé public. Hein,
privé public, d'accord,
assemblée. Cela dit, ça s'inscrit quand même sur une évolution qui est celle de l'ensemble des syndicats d'Europe. Oui, non, mais enfin, on peut discuter.
Ça reste faible.
Ça devient un point de convergence parce que prenez l'OCDE a sorti cette semaine là des nouveaux chiffres de taux de syndicalisation dans les pays de sa zone. On a une convergence. Enfin, les Américains sont à 10%, les Allemands sont à 17%, et pour autant que j'en sache, pas tous au déguébé. Donc, il y a une pente quand même qui conduit, hélas, les syndicats néerlandais sont à 17%. Bon, les syndicats français sont certes toujours derrière, mais eux, ils ne bougent pas depuis 10 ans, alors que les autres viennent progressivement vers...
Et les pays nordiques sont toujours à près de 80%.
Oui, enfin, les Suédois ont perdu, parce que on a ouvert un moyen de cotiser au chômage qui ne passe pas par les syndicats, etc. Il faut se méfier hein, des comparaisons de taux de syndicalisation. On ne sait pas ce qu'on compare quand on compare des taux de syndicalisation. Les dynamiques des syndicats, pays par pays, sont intéressantes à regarder, mais les comparaisons comme ça, factuelles, c'est du fétichisme du chiffre. Ça
ne
correspond pas vraiment.
Si je pose toutes ces questions sur la présence des syndicats face à ce gouvernement, devant ce gouvernement, c'est parce qu'effectivement, ils sont à plusieurs reprises impactés par ce qui se prépare. Hein. Vous avez parlé de l'assurance chômage, on peut parler d'autres mesures aussi, sur les prud'hommes, sur... Il y a beaucoup de... On va voir comment eux vont se situer par rapport aussi, ce que vous disiez à l'instant, Alexandra Roulet, sur prendre mieux en compte les jeunes, prendre mieux en compte les femmes, tout ça les interpelle très directement, Pierre-Yves Geoffard.
Oui, il y a un autre point également.
Et le paritarisme est quand même bien secoué, là. Oui.
Absolument, et il y a un autre... Si on se dit quelle est la réforme prioritaire, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier la question de la formation continue, parce que
très
faciliter, permettre aux entreprises, faciliter les embauches, c'est ça qui est visé par les réformes du marché du travail, que ça passe par une certaine facilitation des licenciements, c'est possible que ça fonctionne, à condition que les entreprises et aussi que les travailleurs soient formés aux nouveaux métiers pour lesquels les entreprises vont embaucher demain, et à condition aussi que les entreprises aient envie d'embaucher et des débouchés prévisibles. Donc la formation continue, c'est sans doute le chantier prioritaire. Et vous parliez tout à l'heure de Jean-Marie Pernaud de l'absence d'évaluation de toutes les réformes récentes ou anciennes d'ailleurs du marché du travail sur la formation continue, c'est quelque chose d'absolument frappant. C'est-à-dire qu'on a 32 milliards qui sont dépensés sans aucune ou à peu près évaluation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi servent ces sommes-là. Est-ce que ça permet aux travailleurs qui sont licenciés de retrouver davantage un emploi s'ils sont passés par une formation? On ne sait pas.
On n'en sait rien.
Est-ce que ça permet aux travailleurs qui restent en emploi d'accéder à de meilleurs emplois, etc.? On n'en sait rien. Donc c'est vraiment... Et là, on sait à quel point cette question est importante pour les syndicats, parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de syndicats qui sont impliqués dans ces officines, dans ces organismes
de protection sociale. Beaucoup
d'opacité, beaucoup de complexité. Syndicats de patrons comme de salariés d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'opacité, et là c'est vraiment essentiel. Je crois qu'il faut vraiment, avoir le courage d'évaluer systématiquement ces formations en termes d'impact pour les personnes qu'elles sont censées protéger et former aux emplois du futur, et là c'est très très risqué.
Oui, et puis surtout ce sont des formations très certifiantes qui ne s'ouvrent pas suffisamment aux peu qualifiés. Là c'est une volonté très ferme hein, d'Emmanuel Macron, il l'avait dit dans sa campagne, on verra, d'insister sur ce point-là, l'emploi peu qualifié. Apprendre, par exemple, puisqu'on est censé changer de métier dans les années à venir, à manier une nouvelle machine. Ça peut être aussi basique que cela. Or, on sait que la formation professionnelle a un peu trop souvent profité au cadre, je ne dis pas de bêtises.
C'est relativement facile d'identifier les secteurs qui recrutent et les nouveaux métiers. Et donc, c'est sûr qu'on voit bien que toute réforme de l'assurance chômage doit être pensée conjointement avec la réforme de la formation pour être sûr que ces transitions puissent s'effectuer de façon efficace.
Oui, mais là encore, les organisations de formation qui sont plutôt pour tous ces changements vont reprendre la main. Les syndicats en seront un petit peu écartés. Ils restent attachés à la permanence de cadres collectifs, Jean-Marie Pernaut.
Bien sûr, puis historiquement, les syndicats, la formation, c'est un thème extrêmement, extrêmement fort. Et vous avez raison, il y a de l'évaluation à faire là-dedans, comme dans d'autres domaines, et probablement pas mal de choses à modifier. Encore qu'il ne faut pas exagérer non plus la fixité du système. Hein. Il y a quand même des choses qui ont été mises en œuvre. Et puis surtout, il ne faudra pas le percuter par d'autres mesures. Alexandra Roulet évoquait tout à l'heure, si on durcit les conditions pour l'assurance chômage et qu'on oblige des travailleurs à prendre des choses qui sont beaucoup en dessous de leur qualification et à moindre salaire, eh bien on va bousculer la file d'attente pour le chômage. On aura des travailleurs non peu qualifiés qui auront du mal à retrouver du travail parce qu'on aura obligé ceux qui ont une qualification supérieure à prendre des emplois qui pour eux sont des emplois déqualifiés. Donc tous ces éléments se tiennent. Je crois que souvent on a, et c'est un des défauts de l'évaluation, c'est que on ne mesure pas l'impact d'une mesure dans un domaine sur les autres. Hein, par exemple, rallonger l'âge de départ à la retraite, eh ben ça a des impacts sur les conditions de travail, le coût de la santé, de la prévention, et on a beaucoup de mal, y compris dans notre système de comptabilité publique, d'ailleurs, à mesurer les impacts d'une mesure sur d'autres domaines.
Oui. Autre point encore, Pierre-Yves Joffard, on revient, là c'est un point qui a été extrêmement débattu, la hiérarchie des normes sociales, ne pas agir dans l'urgence, je le lis beaucoup auprès des experts, les uns et les autres mettez en garde sur ce point, vous restez hostile à l'idée du tout pour l'entreprise ? Ou vous y voyez quand même quelques avantages, je vois Alexandra Roulet, Pierre-Yves Joffard.
Il y a des conditions sous lesquelles ça peut être avantageux. La question, c'est il faut que les travailleurs soient au sein de chaque entreprise, dans un rapport de force équilibré, face à l'employeur. C'est une condition pour que les choses puissent se passer au plus près de la meilleure protection et ce qui donne un rapport de force plus équilibré. La première des choses, c'est le plein emploi. C'est-à-dire que vous avez sur certains secteurs d'emploi où vraiment il y a plutôt un problème pour trouver des travailleurs du secteur que l'inverse. Eh ben c'est dans les rapports de force au sein de l'entreprise, sont pas nécessairement les employeurs qui sont en situation de force. Simplement, il y a quand même beaucoup de métiers où on est très très loin du plein emploi. Donc là, il y a un rapport de force très déséquilibré. Donc la question c'est vraiment ça. Est-ce que les syndicats sont à même d'exercer une représentation des travailleurs au sein des entreprises, au sein des PME, au sein des TPE ou non, et plutôt que d'avoir un rôle de représentation au niveau national de l'ensemble des salariés ou au niveau des branches. C'est ça l'articulation. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on supprime ou si on réduit le pouvoir de représentation au niveau des branches ou au niveau collectif national, mais que on n'a pas de meilleure protection des travailleurs au niveau des entreprises, là, c'est quand même très, très dangereux.
Tout à fait. Il faut rappeler d'ailleurs que toutes les entreprises ne sont pas pour les accords d'entreprise. Les PME notamment ne le souhaitent pas forcément.
Pierre-Yves Joffard rappelait à juste titre les risques de quand on met les négociations plus au niveau de l'entreprise, mais il y a aussi quand même des avantages. C'est-à-dire qu'il faut, ça permet quand même sur certains domaines, mais il faut que ce soit très précis sur les thèmes sur lesquels on peut déroger aux accords de branche au niveau de l'entreprise, d'avoir des conditions qui soient plus adaptées aux réalités de telle entreprise. Et c'est sûr que c'est assez difficile de tout réguler au niveau de la branche. Donc je pense qu'il faut avoir en tête les risques évoqués, mais ça c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher d'agir en la matière.
Dernier mot pour Jean-Marie Pernaut, des syndicats forts, là encore, ça serait souhaitable.
Oui, mais enfin bon, on sait très bien que les syndicats seront jamais forts dans les petites entreprises. Même en Suède, ils sont pas forts dans les petites entreprises. Oui. En Allemagne, ils sont absents, plus que les syndicats français. Donc c'est un mythe de croire que dans les entreprises, on va pouvoir régler le problème de tous les salariés. Alors dans les grandes entreprises, oui, ça se passera bien. Ceux-là, ils sont à peu près protégés. Il faut quand même regarder dans le détail. Je pense que l'enquête réponse de la DARES, 30% des employeurs disent que oui, la négociation a servi à quelque chose. 70% disent que c'était la décision initiale qui a été habillée. Donc, c'est aussi ça, la négociation collective dans les entreprises, parce que à cet endroit-là, l'employeur a la maîtrise. Il a le cadre. C'est lui qui... Et ça, la négociation de branche était un moment-là pour compenser le fait qu'au plus près du rapport de travail, l'employeur a un avantage décisif. Et c'est pour ça que les syndicats au cours de leur constitution, ont toujours souhaité avoir des régulations à un niveau supérieur, parce que, y compris, ça protégeait des travailleurs qui ne pouvaient pas avoir de syndicat directement. Aujourd'hui, je pense que c'est d'autant plus, alors là, on touche à un sujet qui m'est vraiment cher, mais l'entreprise, c'est devenu quoi, l'entreprise? C'est pas l'entreprise d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, 80%, plus de 80% des entreprises sont dans un rapport de sous-traitance, que ce soit comme donneur d'ordre, sous-traitant ou les deux. Aujourd'hui, c'est même plus la branche, le lieu pertinent.
Ce que les syndicats, si je peux me permettre, n'ont pas suffisamment
mais non,
vu
bien sûr
venir.
Que non. Et c'est pour d'accord. ça que moi, je suis toujours un peu surpris qu'on appelle réformiste une aile du mouvement syndical qui n'arrive pas à poser cette question-là. Face à, c'est quoi l'entreprise? Lorsque vous avez un noyau de CDI qui est relié par contrat à l'entreprise mère, mais que sur le site travaille, quand c'est pas la moitié, ça peut être les deux tiers de travailleurs intérimaires, d'entreprises sous-traitantes, de sous-traitants du sous-traitant, etc. Vous négociez quoi dans l'entreprise? Vous négociez la minorité qui est liée en CDI en général par contrat au chef d'entreprise. Et tout le reste échappe. Et le mode de régulation aujourd'hui, pas seulement dans l'industrie, c'est ça. C'est un modèle d'externalisation généralisée. Avec la négociation d'entreprise, on divise les salariés sur un site. On les rassemble pas. Et je trouve qu'on a vraiment perdu la logique de ce qu'est la négociation collective en oubliant un peu ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Mais la réponse, c'est pas seulement la branche, c'est la chaîne de valeur.
Je suis vraiment désolée de vous interrompre, c'est vraiment intéressant cette discussion. On apprend des choses par Jean-Marie Pernaud, spécialiste de la vie syndicale. En tout cas, merci à tous les trois pour vos éclairages. On passe à vos chiffres, mais on reviendra, je le promets bien sûr, à l'examen de toutes ces mesures. Et on commence avec Catherine André. Pour Alternative Économique, quel est votre chiffre, Catherine?
Alors, mon chiffre aujourd'hui, c'est 45. 45% de la production agricole française pourrait être bio vers 2050, selon le scénario AFTER 2050. Et c'est une bonne nouvelle à plusieurs égards, parce qu'on connaît de mieux en mieux les dommages causés par l'agriculture intensive aux terres, à la biodiversité et à la santé. On a établi des liens entre les cancers et les maladies neurodégénératives chez les agriculteurs qui sont exposés chroniquement à ces pesticides. Et on détecte ces produits nuisibles dans plus de 45% des aliments consommés en Europe, d'après un récent rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments. Même si les limites légales sont en général respectées dans 97% des cas, de plus en plus de chercheurs suspectent la toxicité, même à faible dose, de ces produits classés comme perturbateurs endocriniens. Enfin, l'élevage fait aussi partie des problèmes de résistance aux antibiotiques responsables de 25 000 décès par an en France. Tout ceci explique les préoccupations des agriculteurs ainsi qu'une forte demande de consommateurs aujourd'hui pour les produits bio, plus 15% en 2015 donc par an et plus 20% estimé pour 2016. Du coup, l'agriculture bio est passée de 1,9% de la surface agricole totale française en 2002 à 4,9% en 2015. C'est pas mal, mais évidemment, on est encore loin de l'Italie, de la Suède ou même de l'Autriche qui est à 21%. Peut-on du coup imaginer à terme une ferme France à 100% bio? Il faut plus de travail dans l'agriculture que dans l'agriculture conventionnelle, donc c'est un grand avantage pour l'emploi. Les coûts de production sont plus élevés, mais on peut aussi penser que si on cuisine des produits de base bio et en réduisant la consommation de viande et la remplaçant par des légumineuses, ça coûte pas forcément plus cher que de se nourrir de plats tout préparés. Donc les coûts très bas auxquels parvient l'agriculture conventionnelle n'intègrent pas ce que l'on appelle les externalités sociales, environnementales et sanitaires largement négatives et qu'on prend en charge in fine dans la collectivité. Donc, on peut dire que 45% dans le scénario AFTER 2050 d'une production agricole française pourrait être bio au sens strict. On peut rajouter 45% supplémentaires qu'on appelle dans l'agriculture intégrée, qui a le plus possible de moyens biologiques, mais on peut recourir de façon marginale aux produits chimiques. En bref, il faut changer le contenu de l'assiette. Il faudrait donc une assiette avec plus de céréales, plus de légumineuses, des fruits, des légumes, deux fois moins de viande et de produits laitiers qu'en 2010. C'est un dossier complet intitulé « Bio, faut-il y croire ?» à retrouver dans le dernier numéro d'Alternative Économique.
On ira, bon appétit, merci Catherine, André. Allez, un dernier chiffre, Alexandra Roulet, on n'a pas le temps de tous les donner.
30 millions, un rapport de Terra Nova sur la petite enfance sorti cette semaine que je recommande chaudement. À 4 ans, un enfant d'une famille défavorisée a entendu 30 millions de mots en moins qu'un enfant d'une famille aisée. Et ce rapport par Florent de Baudement, Clément de Chaise-Martin, Romain Dugravier et Marc Burgan propose des solutions, notamment le fait d'avoir plus de crèches dans les quartiers populaires et les zones rurales parce que d'avoir des programmes d'éveil au langage dans les crèches pour essayer dès la petite enfance de remédier à ces inégalités.
Merci, beau chiffre, on va le mettre en ligne cette référence. Désolé messieurs, vous reviendrez nous voir pour vos chiffres à vous. On remercie notre petite équipe Laetitia Coya avec Bruno Gagnère-Fontanille aujourd'hui. On renvoie à Alter Eco, merci aussi bien sûr à Laurence Genepin pour la préparation et la documentation comme chaque semaine et depuis bien longtemps.